peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Le Régor, chaque semaine sur les Coligariques à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir.
Bonsoir, Denis.
On est encore en direct.
Ouais. Encore une fois, ouais. Et ce soir, on se propose de revenir sur une longue période, puisque c'était il y a 20 ans.
20 ans.
Alors, paradoxalement, on le fait alors que, somme toute, s'il y a eu quelques rappels des événements dont on va parler ce soir, ça reste quand même assez faible, hein, par rapport à l'importance qu'ont eu les événements dont on va parler. En effet, il y a une actualité directe qui est celle du débat au budget au Parlement, mais d'une manière générale, il y a assez peu. Alors, cet événement, c'est, vous l'avez peut-être déjà deviné si vous intéressez à nos émissions et puis à l'actualité, sont les révoltes des banlieues qui ont eu lieu au mois d'octobre 2005, révoltes qui ont été qualifiées à l'époque par les renseignements généraux, qui existaient encore à l'époque et qui s'appelaient renseignements généraux, dans un rapport du 23 novembre 2005, donc quelques jours après la fin de ces révoltes. Je cite le rapport « La France a connu comme une forme d'insurrection non organisée, avec l'émergence dans le temps et l'espace d'une révolte populaire des cités, sans leader, ni caïde, ni intégriste, et sans proposition de programme. Le ressort principal des émeutes serait la condition sociale des exclus de la société française. » Et ce rapport, il est assez intéressant quand on le lit à l'intérieur, puisque il fait état véritablement d'un travail somme toute objectif et de terrain, comme les services de l'État sont capables de le faire pour renseigner évidemment les acteurs de l'État. Alors, dans un premier temps, on va essayer de revenir un petit peu sur le long déroulé de ces 15 jours de cette insurrection non organisée.
Plus de 15 jours.
Alors, 27 octobre, et oui, ça a terminé vraiment vers le 14 novembre. Il y a la fin, on va dire, des événements de haute intensité. Il y aura encore quelques événements au cours des prochains jours, mais j'arrête au 14 novembre, puisque là, il y aura la prise de parole du président de la République et on aura quelque part la fin de ce cycle. Mais revenons d'abord au 27 octobre 2005, là où tout a commencé, puisque tout commence avec la mort de deux jeunes garçons de Clichy-sous-Bois, Bouna Traoré, 15 ans, et Ziyed Bena, 17 ans, qui meurt électrocuté dans un transformateur EDF. Un troisième, Mouettine Atune, 17 ans, sera très sérieusement blessé. Il arrivera à s'échapper de ce transformateur et il rentrera chez lui. Pour vous dire un peu la terreur dans laquelle il sera, il n'ira même pas à l'hôpital de lui-même, ce sont ses parents qui l'emmèneront en urgence à l'hôpital pour se faire soigner. Alors, ces trois adolescents s'étaient réfugiés dans ce transformateur pour fuir la police, puisque, en effet, ce mercredi après-midi, c'est un mercredi, on est en période de Ramadan, et avec une dizaine de leurs copains, ils vont faire un match de foot dans un terrain de foot de la cité du Chêne Pointu, donc qui est une cité à Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, qui est une commune dans le 93, en banlieue de Paris, d'une quarantaine de milliers d'habitants à cette époque. Et on est en période de Ramadan, on est sur la fin du Ramadan, et à l'issue de ce match de foot, ils rentrent tranquillement chez eux. Dans le même moment, il y a un Kidam qui va appeler la police pour signaler que il y a un chantier qui est ouvert, dont les palissades ont été ouvertes, et il le signale non pas pour un quelconque délit, mais il le signale à la police municipale et à la police nationale, puisqu'il craint qu'il y ait des gens qui rentrent à l'intérieur et qu'il puisse y avoir des incidents ou pas. Mais en tous les cas, il signale juste que ce chantier est désormais accessible. Bah donc, il va y avoir un contrôle, une escouade de police qui va se rendre sur les lieux et qui va prendre en chasse ce groupe de 10 jeunes qui rentrent chez eux. Sur ces 10 jeunes, il y en a 6 qui vont être interpellés, qui vont être emmenés au commissariat et qui seront relâchés sans charge, sans inculpation dans la soirée. Et donc, il y a ces 3 garçons qui vont s'échapper et qui vont se réfugier dans ce transformateur. Alors, le procès qui aura lieu 10 ans plus tard démontrera que les policiers avaient parfaitement conscience du danger que couraient les ados quand ils se sont réfugiés dans ce transformateur et qu'ils ont délibérément abandonné à la fois la poursuite, mais également n'entrepris aucune démarche pour les faire sortir, soit en les rassurant, soit en les informant du danger, et ils n'ont absolument pas cherché à prévenir ni les parents, ni quoi que ce soit. Alors, ce drame, la mort de ces jeunes, c'est le point de départ des émeutes les plus importantes de l'histoire contemporaine française, à tel point que le gouvernement de l'époque décrète l'état d'urgence et le couvre-feu, des procédures qui renvoient à passer bien, bien, bien trouble, hein, la loi de 1955 pendant la guerre d'Algérie, ou alors au présent de n'importe quelle dictature, hein, quand on parle d'état d'urgence ou de couvre-feu, c'est pas forcément des sociétés telles qu'on les conçoit ici, en tous les cas. N'en reste pas moins que la France, à cette époque, n'avait jamais connu de telles émeutes. Et par leur durée et par leur contagion, ces révoltes urbaines sont exceptionnelles et donc méritent qu'on s'y attache et qu'on y regarde, quoi. Alors, les émeutes dans les quartiers, alors, déjà, comment nommer les choses? Alors, moi, ce que je propose pour éviter les mots qui sont chargés, cité, banlieue, etc., c'est de regarder une dénomination, on va dire, la plus objective possible. C'est celle qu'on nomme les quartiers prioritaires de politique de la ville, qui englobe un peu plus de 7 millions de personnes sur le territoire français. Je disais, si la mort tragique des deux jeunes Clichois est l'étincelle qui met le feu à la plaine, pour qu'il y ait explosion, il faut qu'il y ait un moteur, une situation. Et les émeutes de 2005, elles constituent de ce point de vue un révélateur extrêmement puissant, quoi. Les émeutes de 2005, elles sont aussi le théâtre d'affrontements idéologiques et politiques sur la manière de répondre à la question sociale et à ce fameux malaise des banlieues, selon la formule qu'on utilise pour désigner ces espaces urbains, mais quand on n'y habite pas, évidemment, puisque, en général, la plupart des gens qui habitent ces ensembles parlent de chez eux, parlent de leur quartier, parlent de leur cité avec des noms, etc. Et pas du tout des dénominations extrêmement soit stigmatisantes, soit fortement connotées socialement et politiquement. Donc construits au milieu des années 50, les grands ensembles urbains qui peuplent nos villes sont en fait des grandes barres d'immeubles, hein, qui à ce moment-là doivent répondre à une croissance démographique extrêmement importante, un exode rural, puisque les campagnes vont se désertifier. Et puis donc, cette croissance démographique issue du baby-boom et aux importantes vagues d'immigration de l'après-guerre. À l'époque, c'est l'époque du plein emploi, du manque de main-d'œuvre, etc., etc. Il faut rapidement créer des espaces d'habitation pour toute cette nouvelle population qui arrive en ville. Mais depuis, évidemment, les crises pétrolières et plus tard les crises financières sont passées par là, et c'est dans ces banlieues que l'addition a été la plus lourde. Depuis leur construction dans les années 50, le temps a fait son œuvre, les bâtiments ont vieilli, l'insalubrité est devenue la norme, et évidemment, les fils de l'immigration de deuxième, voire de troisième génération qui peuplent ces quartiers connaissent pas un sort plus enviable que celui de leurs parents. C'est au début des années 90 que la France va découvrir un nouveau phénomène urbain et social, ce qu'on appelle ces émeutes, puisque coup sur coup, deux jeunes, l'un à Vaux-en-Velin, à la fin des années 70, 1979, l'autre à Mantes-la-Jolie en 1991, meurent, victimes de bavures policières. Et dans les deux cas, on a à peu près le même scénario. Alors, on a une révolte où des habitants, la plupart du temps jeunes, incendient des véhicules, des bâtiments publics, des magasins et affrontent la police. Le pouvoir de l'époque apporte une réponse politique et évidemment policière. Donc, d'un côté, on va créer le premier ministère de la ville, chargé de mettre en place une politique urbaine dite à cette époque anti-ghetto. Et puis, dans le même temps, on va créer des nouvelles escouades de police, comme par exemple la tristement célèbre BAC. Cependant, rien n'y fait. Les décennies 90 et celle de la fracture sociale, la vraie, hein, pas celle du slogan électoral. Chaque année, on enregistre un nouveau drame et évidemment, en général, le quartier s'embrase. Donc la Grande Borne en 1998, Mantes-la-Jolie, je l'ai déjà dit, le Val-Fouré, etc. Le gouffre se creuse et s'exprime, mais dans ces quartiers, il va aussi y avoir des réponses propres de la part des habitants. C'est l'émergence du rap français, avec NTM qui chante « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?» Mathieu Kassovitz avec le film « La haine », Jean-François Richet avec le film « Ma cité va craquer », etc., etc. Tout ça continuait, on va dire, tranquillement, une bavure, une émeute, une réponse policière, une pseudo-réponse politique avec des grands plans d'urbanisme, etc., etc. Et on arrive tranquillement au début du XXIe siècle, en 2005. Rappelons quand même quelques éléments de contexte. Hein, le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac l'emporte logiquement deux semaines plus tard, avec une campagne quand même largement dominée par le thème de l'insécurité. Le président élu nomme Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur, et celui-ci va imposer d'emblée son style, c'est-à-dire la tolérance zéro et son moderne. En effet, il a comme plan de surfer sur cette thématique de l'insécurité, et ça va largement se faire sentir, notamment par une communication tout feu, tout flamme, quoi. Alors, le premier moment, c'est évidemment, pour ceux qui se rappellent, c'est sa descente au quartier, au commissariat du Mirail à Toulouse, le 3 février 2003. C'est celui où il dit que la vocation de la police, c'est pas de jouer au rugby avec des jeunes, mais c'est d'interpeller. Donc, la police de proximité est remplacée par une police dite de projection, avec des actions, des interpellations, des résultats mesurables et communicables, et donc du chiffre et du chiffre. L'année 2005 va cristalliser les nouvelles méthodes du ministre de l'Intérieur, qui n'a pas oublié que sa fonction est celle de premier flic de France, même si ce n'est pas que la fonction du ministre de l'Intérieur, mais c'est celle qui va véritablement se donner comme commission. Lors du déplacement à la Courneuve en 2005, c'est là qu'il parle de ce fameux Karcher. Et quelques mois plus tard, au coup de visite de nuit à Argenteuil, le ministre de l'Intérieur est accueilli par des insultes et des jets de pierre. Et c'est là qu'il va utiliser ce fameux terme de racaille. Ouais. Le 27 octobre, donc quelques heures après le drame, la prise de position de Nicolas Sarkozy et du Premier ministre Dominique de Villepin est dans la même tendance. Pas un mot pour les victimes, pas un mot de compassion pour les familles, mais tout de suite, on va servir la version policière. En effet, le Premier ministre parle de cambriolage, le ministre de l'Intérieur nie toute course-poursuite de la part de policiers refuse, accrédite immédiatement la version policière. C'est cette version qui va s'imposer rapidement dans les médias. Évidemment, les jeunes clichois, eux, comme ils sont témoins directs de ce qui s'est passé et qu'ils vont pouvoir interroger les copains de Ziad, Bouna et Mouettine, eh ben, ils vont être mis en porte-à-faux par rapport à cette version médiatique et discours dominant, quoi. La rumeur explose, la rumeur court, pardon, et du coup, la colère explose, quoi. Le quartier s'embrase, les forces de l'ordre interviennent, mais ils interviennent d'une manière très très massive, très très violente, puisque ce soir-là, c'est un peu plus de 300 lacrymogènes qui vont être balancés dans le quartier, contre environ à peu près ce qu'on sait aujourd'hui, 150 à 200 jeunes contre 200 policiers, quoi. la police est prise plutôt de court. Le commissariat de Clichy-sous-Bois est attaqué. Mais à ce moment-là, semble pas mesurer l'ampleur de la colère qui gagne les jeunes. Et je le répète, tactiquement, au lieu de contenir les émeutiers, elle charge et du coup, elle disperse. Et le gaz et la fumée qui se dégagent lors de ces interventions donnent, dans cette première nuit, dans la chaîne pointue, vraiment un climat de chaos, quoi. Donc le lendemain, Clichy-sous-Bois se réveille dans un décor assez apocalyptique pour ceux qui avaient l'occasion de s'y rendre. 23 véhicules sont incendiés, l'école maternelle les vandaliser, etc., etc. Y a une impression véritablement de guerre. Le 28 octobre, en déplacement à Metz, le ministre de l'Intérieur est interviewé sur les événements de la veille, affirme que ce sont des bandes, que ce sont des voyous. Une nouvelle fois, il n'y a pas un mot de compassion. Et il répète que, à sa connaissance, la violence est liée au vol et aux interpellations, quoi. Donc, au lieu, une nouvelle fois, de calmer la tension, ces prises de parole, exacerbent les tensions et la plupart des journaux télévisés, en plus de délivrer des images apocalyptiques, reprennent la version et de nouveau insistent sur les cambriolages. Il va donc y avoir une deuxième nuit de violence, cette fois-ci encore plus forte, le 29, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y aura une balle qui sera tiré sur un fourgon de police. Et là, véritablement, il y a une prise de conscience de la part des habitants de la commune et des édiles locales, puisqu'il va y avoir la proposition de cette fameuse marche qui va partir de la cité et qui se rendra au transformateur. Il y a environ 500 personnes qui vont participer à cette marche, et avec des t-shirts, etc. Beaucoup de tristesse et surtout des appels au calme qui seront distribués à la tribune, puisque pour eux, il ne s'agit pas de justifier la violence, mais de les expliquer. Tout de suite, il va y avoir une redescente de la tension, avec en plus l'arrivée de renforts de police, en l'occurrence des CRS. Et il va y avoir le troisième soir quelques incidents sporadiques qui vont concerner un peu moins d'une cinquantaine de personnes sur la cité du Chêne Pointu. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que ces émeutes, elles ont lieu dans un contexte qui est un contexte de Ramadan, sur la fin du Ramadan, et que lors de la fin du Ramadan, sur les derniers jours, sur le dernier jour en fait du jeûne, il y a des grands rassemblements qui sont organisés dans les mosquées. C'est ce qu'on appelle la nuit du doute. C'est un moment de prière collective, de réunion collective, où on prépare la fin du Ramadan. Et à Clichy-sous-Bois, à la mosquée de Bilal, il y a environ 500 à 700 personnes qui sont rassemblées pour cette célébration. Et donc le 30 octobre, le quatrième soir après la mort des jeunes clichois, il y a une grenade qui va être projetée à l'intérieur de la mosquée, où la plupart des adultes qui sont là, des vieux, des jeunes, des femmes, quelques enfants, vont se retrouver complètement gazés. Et il va y avoir évidemment des prises d'images qui vont être faites et qui vont circuler très très rapidement. Une nouvelle fois, l'expression du ministre de l'Intérieur est extrêmement ferme et dure. Et si il admet que la lacrymogène a atterri dans la mosquée, il est absolument déjà, il met en doute la possibilité qu'elle soit tirée par ces forces de police,
comme d'hab.
Et évidemment, il a aucun mot d'excuse, ne serait-ce de compassion, et se rend même pas sur place pour rencontrer les différents acteurs, quoi. Et c'est ce moment du 30 octobre qui va véritablement transformer ce qui se passait à Clichy-sous-Bois en un événement d'une autre ampleur. Alors déjà, sur place, après l'épisode de la mosquée, la détermination des émeutiers s'amplifie et la carte des violences témoigne d'une impressionnante propagation. Rapidement, tout le département de la Seine-Saint-Denis est touché, Montfermeil, Aulnay, Drancy, le 93 s'embrase. On échange des images, des SMS, il y a déjà à l'époque des embryons de réseaux sociaux, mais il y a des sociabilités sur les collèges, sur les lycées. Il y a véritablement un embrasement de tout le 93. Le conflit sont donc de nature, et la sphère politique est désemparée face à ces émeutiers qui ne produisent aucun discours, aucune représentation, et qui s'expriment uniquement... enfin. Principalement par l'affrontement avec la police et par la destruction. Donc à partir du 30, donc il y a cette expansion, et évidemment Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, lui maintient sa ligne puisqu'il déclare ces violences sont le fait de bandes délinquantes organisées qui mènent des actions structurées, réfléchies. Le laxisme les a laissés grandir. Il faut s'attaquer aux racines. Bon, d'accord, on a une meilleure manière de calmer la situation. Et il n'est pas, à ignorer que à l'intérieur du gouvernement, il y a cette rivalité entre Sarkozy d'une part et le Premier ministre Dominique de Villepin, rivalité qui donnera lieu à d'autres affaires plus tard, mais qui sert aussi l'instrumentalisation du conflit et la partie vers cette troisième phase du mouvement, quoi. Puisque à partir du 3 novembre, donc on est maintenant 6 jours après le décès des deux gamins, les agglomérations de Rouen, de Lyon, de Rennes sont touchées. C'est au tour des zones urbaines de Toulouse, de Strasbourg, de Roubaix, de Bordeaux. Plus de 300 villes sont touchées. Pour la première fois, des zones rurales aussi apparaissent. L'intensité des troubles est à son comble. Des centaines de voitures sont brûlées chaque nuit, mais aussi des entrepôts, des écoles, des bibliothèques, des gymnases, des centres commerciaux. Un pic de violence est atteint dans la nuit du 6 au 7 novembre, où 1500 véhicules sont brûlés et 395 émeutiers sont interpellés, 36 policiers sont blessés. Les hélicoptères sont sortis. On a à l'intérieur des cités des hélicos qui tournent autour du tour avec des projecteurs. La presse du monde entier vient prendre le pouls de la France, et sur la carte, les points des villes sont transformés en flammes. Il y a même CNN qui va faire des cartes complètement folles. Et le 6 novembre au soir, Jacques Chirac décide, le président de la République, décide enfin à prendre la parole sur le perron de l'Élysée, où sur un discours de 2 minutes 30, assez hésitant, il y a une réclamation d'un retour d'un l'ordre, avec une insistance sur la justice, la fermeté, des promesses de quelques réformes, mais... convainc pas grand monde à ce moment-là, quoi. Le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, prend alors les choses en main. Réunit un conseil des ministres, exceptionnel, puis devant l'Assemblée nationale le 8 novembre, il décrète l'état d'urgence. Et on va assister à l'Assemblée nationale à un vote à l'unanimité, enfin quasiment à l'unanimité, de l'état d'urgence, où l'ensemble des forces politiques va adhérer à ce projet. Dans une sorte d'union nationale où on va réactiver ces lois sur la base de la loi de 1955 qui autorise les préfets à mettre en œuvre des mesures de couvre-feu. Et cette décision, elle renvoie à l'image d'une France en guerre civile. À gauche, le Parti socialiste est certes divisé sur la question, mais une partie du Parti socialiste va appeler au soutien du gouvernement dans, je le répète, une sorte d'union nationale. L'extrême droite, quant à elle, se réjouit évidemment avec un petit air de
on vous l'avait bien prévenu.
Sur le terrain, Nicolas Sarkozy maintient son cap et sa ligne directrice. Le 9 novembre, il redescend à Toulouse et réaffirme sa vision des choses. Je cite. Alors, le choix et le jeu étaient assez simples. Soit les bandes gagnent, soit la République l'emporte. L'alternative, elle est dans ce choix. Soit c'est la force légale de la République, soit c'est la force brutale des bandes. Donc les forces de l'ordre à ce moment-là changent de stratégie et se déploient en petits groupes à travers tous les quartiers pour essayer d'avoir un maximum d'interpellations. La menace juridique se renforce puisque le ministre de l'Intérieur demande au préfet d'expulser les étrangers et les condamner les étrangers condamnés dans le cadre de violences urbaines. même ceux qui détiendraient un titre de séjour en règle. On a à ce moment-là la construction, comme on l'a vu, soit d'une menace intérieure qui serait constituée de bandes, soit d'une menace intérieure qui serait constituée d'étrangers. On le verra, puisque tu as quelques chiffres là-dessus, hein,
ouais,
sur cette fameuse baudruche des 120 étrangers. Qu'est-ce que c'était en vérité? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, quoi? Si tu peux nous le dire, Denis.
Oui, alors, comme tu le dis, c'est le 9 novembre où Sarkozy parle de 120 étrangers qui ont été pris par la police et qu'on peut expulser même pour ceux qui auraient des papiers, puisque la loi l'autorise, ce qu'on appelle l'urgence absolue. Donc, voilà, on est parti sur 120. Ensuite, on voit bien que les 120 ont du mal à exister. Ensuite, il va parler de 83. Ça, c'est un peu plus tard. Alors là, ça commence à se dégonfler. Sur les 83, il dit qu'il y en a quand même pas mal qui ne sont pas expulsables. Ce sont des gens qui, au niveau de la loi, sont protégés. Mais n'empêche qu'il maintient le cap. C'est l'immigration sans papier qui est responsable de ce qui s'est passé. Bon, en fait, ça va complètement se dégonfler, puisque sur les 785 déférés et mis en prison, il n'y a pas 83 étrangers. Il n'y a jamais eu 83 étrangers. C'est là qu'on s'aperçoit que Sarkozy, c'est vraiment la racaille. Quoi. C'est vraiment... On peut se frotter le bide actuellement de voir qu'il est en tôle, ce mec. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais... C'est quand même incroyable, quoi. Alors, en fait, il va être obligé de reconnaître qu'il n'y en a plus que 7 à la fin des émeutes. À la fin de l'émeute, au mois de fin novembre, il dira qu'il n'y en a plus que 7 qui sont normalement en voie d'expulsion. Puis ensuite, finalement, il n'y en aura plus que 2. Alors, pour les 2, il y en a un qui est un Malien, qui n'a pas de famille, d'ailleurs, au Mali. Toute sa famille est en France. Il va être expulsé, lui, mais voilà. Bon, et puis il y en a un autre à Reims. Mm-hmm. Hein, il s'appelle Aubin, son prénom, Aubin. Et il va y avoir un comité soutien qui va être fait par, entre autres, Solidarité Migrants.
Et pas que. Mais, et okay. Qui, en plus, alors, parle d'expulsion, mais véritablement, c'est pas une expulsion. Il va y avoir une négociation.
J'explique. Hein. C'était un jeune étudiant qui était en renouvellement de papier. Il se fait prendre le 11 novembre par les flics, alors qu'il est à proximité de...
D'une poubelle en feu.
De deux poubelles en feu. Mais à proximité, les flics n'ont pas été capables de prouver que c'était bien lui qui avait foutu le feu. De toute façon, ils arrêtent plusieurs personnes. Hein. Il n'est pas le seul. Mais c'est le seul qui est étranger. Donc, en plus, il est bien noir. Donc, en plus, ça fait du bien, si tu veux, à la démocratie française, d'avoir ce type de scénario, quoi. Normalement, ça doit monter. En fait, ça va se dégonfler totalement. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, finalement, son titre de séjour ne sera pas renouvelé. Voilà. Et puis ensuite, la préfecture va lui donner une... C'était pas une QTF à cette époque-là, c'était une IQT, mmh. Interdiction du territoire. Mais il va partir donc en mois de février, je crois.
C'est ça.
Voilà.
Après avoir été caché pendant plusieurs semaines et avoir bénéficié d'un moment de soutien. En plus, on était sur le 11 novembre, donc on était sur une phase décroissante au niveau des émeutes. Alors, tu l'as dit, hein, la sociologie des interpellés, elle est intéressante, puisque sur les plus de 5000 interpellations qui ont eu lieu, on a 80% de gens qui n'ont pas affaire à la justice, qui n'ont jamais eu affaire à la justice. Ouais. Les émeutiers, donc, en garde à vue, le plus souvent, ils acceptent la comparution immédiate sans se poser de questions. Il va y avoir une répression terrible, puisque sur ces 5000 interpellations, il y a 800 jeunes qui vont être écroués. et dans certaines zones du territoire, on va avoir des audiences qui vont se dérouler nuit et jour pendant plus de 72 heures, notamment à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, on va avoir véritablement une boucherie judiciaire et tout un tas de jeunes qui vont se retrouver en prison pour des broutilles et qui vont le plus souvent être complètement débordés par la situation avec des avocats débordés également ou alors qui en ont rien à cirer et fondamentalement...
Et puis un isolement politique total,
puisqu'il n'y aura pas du tout de mouvement de solidarité, que ça soit sur l'ensemble du spectre politique ou d'une manière générale sur les marges, puisque même l'extrême gauche sera très très absente. Mal à l'aise,
absente,
voire même défiante par rapport à ce mouvement. Et vers le 14 novembre, Jacques Chirac reprendra la parole pour conclure cette période de troubles que vient de vivre la société française. Alors, je vous propose d'écouter, pour reprendre notre souffle, en 2020, donc 15 ans après les émeutes, il y a des sociologues qui sont allés faire un tour à la cité du Chêne Pointu. Ils aiment bien, après, en général, les sociologues venir pour nous expliquer pourquoi ça s'est passé et comment ça s'est passé. Et à ce moment-là, il y a un jeune, Naofel, qui est interviewé. Il avait à ce moment-là l'âge, en 2005, pardon, il avait l'âge de Zied et Bouna. Et il revient là-dessus, sur cette période. On s'écoutera un peu de musique. Puis après, on essaiera un petit peu de prendre de la hauteur et de dire comment nous, on a considéré ce moment, comment on le considère aussi et comment on le replace, dans une période un peu plus longue et dans ce que ça signifiait de la société à l'époque et ce que ça signifie aujourd'hui. Mathieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer le son ?
Vous avez assez de cette bande de racailles. Mais on va vous en débarrasser.
Naoufal Mohamed, vous aviez à peu près le même âge que Zied Bena et Bouna Traoré en 2005. Quels souvenirs gardez-vous de ces événements ?
De ces événements, j'ai tout d'abord un souvenir de tristesse, de colère et surtout d'incompréhension et de la solidarité vis-à-vis des familles et de la compassion aussi pour tous les Clichois qui venaient de perdre deux êtres chers.
À l'époque, comment vous aviez vécu l'annonce de la mort de Zied et Bouna et les réactions des habitants des Clichois et des émeutes qui se sont propagées dans toute la France ?
C'est vraiment l'incompréhension parce que on sait ce qu'il se passe souvent avec la police et étant donné que à Clichy-sous-Bois, on se connaît à peu près tous, on savait que Zied Bena et Bouna Traoré n'étaient pas des délinquants. Et que c'était surtout des passionnés de foot. Et donc, du coup, avec eux, il y avait aussi de nombreux jeunes qui revenaient d'un match de foot. Et à l'époque, je préférais me fier, moi, aux récits de mes camarades du collège, des mêmes personnes avec lesquelles on a été peut-être à l'école primaire ensemble. Et donc, qui étaient là à ce moment-là et qui ont été dans la course-poursuite et qui ont pu revenir au quartier pour raconter leur version. L'incompréhension, parce que du coup, cette version-là, c'était la version que nous, on a entendue dès les premiers jours, dès les premières heures, dès les premières minutes. Par contre, celle qu'on a vue le soir même à la télé, le lendemain, était tout autre. Et en réalité, c'était cette incompréhension-là. Et là, on réalisait que... En fait, d'une part, ceux qui sont censés nous protéger pouvaient parfois nous tuer. Et d'autre part, les institutions et les représentants qui étaient censés et qui sont censés nous représenter peuvent mentir comme ça, publiquement, sans se poser la question de l'impact que ça peut avoir sur ces populations.
Et les clichés sur les jeunes de banlieue reviennent souvent dans les discours publics et politiques. Vous, quand vous les entendez, comment prenez-vous ces mots ?
Franchement, plus de 15 ans, 16 ans après, je me dis, premièrement, heureusement qu'il y a eu la génération racaille, en réalité. Parce que c'est cette génération-là qui a donné lieu à tous ces récits, à toutes ces recherches qui ont été faites sur 2005. C'est une génération, d'une certaine manière, qui a marqué l'histoire. Parce que on n'a jamais vu ça dans les quartiers, que ça soit en Île-de-France, que ça soit en province, des jeunes qui se révoltent de manière simultanée. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été très très fort. Et on l'a aussi rappelé avec l'organisation du collectif A Cessez le Feu, qui est parti directement sur des tours de France. Moi, pareillement, je me souviens à l'époque de nombreuses expositions qu'il y a pu y avoir à Clichy-sous-Bois avec les meilleurs photographes du monde, avec notamment l'exposition Clichy sans cliché, l'album Mort pour rien avec les meilleurs rappeurs français. Et là, on voit que, bah, en fait, c'est cet événement-là qui a accéléré d'une certaine manière la rénovation urbaine dans ces quartiers. Et lorsqu'on regarde le bilan généralement des politiques publiques, le seul constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu cette rénovation urbaine. Voilà, on peut être d'accord aujourd'hui ou pas, mais elle a été faite. C'est du visuel. Et donc, sans la génération racaille qui s'est battue, qui est descendue dans les rues pour dire là, on n'en peut plus. Déjà, à ce niveau-là, je pense que voilà, on serait déjà encore dans nos tours sans RER, sans tram et sans rien.
Mais quand vous entendez des mots stigmatisants de la part, par exemple, des personnalités politiques en 2022, est-ce que ça vous touche ?
Bah non, parce qu'ils ne nous connaissent pas, en réalité. Bah, en fait, moi, j'ai tendance à penser que quand ma mère, elle me dit quelque chose, ça va me toucher. Si mon frère, il me dit quelque chose, ça va me toucher. Parce que ces gens-là, ils comptent pour moi, en réalité. Aujourd'hui, les politiques, ils comptent pas pour nous. Donc, en réalité, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On sait, nous, ce qu'on vaut. Et donc, et on voit aussi ce qui se passe sur le terrain. Donc, ils peuvent continuer de stigmatiser les habitants de ces quartiers. Et on voit aujourd'hui que, bah, à force de stigmatiser les habitants de ces quartiers, aujourd'hui, les habitants de ces quartiers, ils se sont détournés de ces politiques-là, en réalité. Donc, ils parlent, ils critiquent des jeunes des quartiers qui les écoutent même pas, juste pour flatter quelques fachos.
Et vous-même, Naoufel Mohamed, est-ce que vous vivez parfois des situations où vous vous sentez discriminé, peut-être à cause de votre couleur de peau ou à cause de l'endroit où vous habitez ?
Bah moi, je cumule le tout un peu. C'est vrai que, enfin, quand on s'appelle Mohamed, on a moins de chances de trouver du boulot que n'importe qui. Et voilà, ça, j'en ai conscience. Je suis noir, et donc ça aussi, j'en ai conscience. Je suis musulman, ça aussi, j'en ai conscience. Et c'est vrai, quand on regarde le débat public aujourd'hui, il y a une violence qui est verbale, permanente, à l'égard des personnes comme moi. Et donc, au final, on finit par, d'une certaine manière, l'intérioriser en se disant, bah, ok, bah, il faut se battre deux fois plus, il ne faut rien lâcher. Donc c'est comme ça qu'on finit par avoir une certaine détermination. Mais de base, on n'est pas censé être comme ça. On n'est pas censé être d'une certaine manière renfermé sur nous-mêmes en se disant bah ok, bah vu que vous ne voulez pas de nous, vous passez votre temps à nous stigmatiser, on va s'organiser de nous-mêmes.
Et à quel moment, par exemple, vous vous sentez discriminé à cause de votre nom, de votre religion ou de votre couleur de peau ?
Sur cette question-là, j'ai pas envie de répondre, on va dire, de manière personnelle. Parce que du coup, si on commence à prendre ces questions-là de manière tout à fait personnelle, je pourrais tout simplement dire que, voilà, je suis peut-être moins touché parce que finalement, j'ai un Master 2, je connais bien ces questions-là, je sais comment je peux me protéger, ce qu'il faut éviter. Mais j'ai aussi en tête que, des fois, il me faut seulement, genre, ma capuche sur ma tête avec des écouteurs, la tête un peu baissée pour me faire manger un contrôle. Et au final, un policier qui va me tutoyer, me mal me parler, et ça, c'est des choses que j'ai envie de dire, on finit par s'y habituer.
Naoufel Mohamed, je crois que vous vous êtes engagé très jeune dans une association. Pourquoi ?
En réalité, quand on grandit dans ces quartiers, on prend conscience de plusieurs choses. c'est que d'une certaine manière, on est un peu différent de nos parents, qui eux acceptaient tout, toutes les humiliations, le fait d'occuper les postes les moins bien rémunérés, mais les plus pénibles. Et je pense que là, c'est là où il y a une fracture et qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette incompréhension parce que, en même temps, on va pas nous demander à nous d'avoir les mêmes réflexes que nos parents qui sont arrivés, entre guillemets, ici, un peu en mode mercenaire. Je viens en France, voilà, je travaille, je gagne mon argent et un jour, je vais retourner chez moi. Sauf que nous, la réalité, c'est que chez nous, ces quartiers-là. Et donc, au final, on réalise aussi que ces quartiers-là, ils sont un peu particuliers dans le paysage, entre guillemets, français. Et quand on regarde justement ce qui s'est passé en 2005, c'est là où moi, je prends conscience de tout ça. Je prends conscience, comme je vous l'ai dit au départ, que, en fait, si nous-mêmes, on n'essaie pas de raconter nos propres récits, si nous-mêmes, on ne fait pas l'effort de vouloir de temps en temps répondre ou bien donner la parole aux habitants de ces quartiers populaires, bah, ce qui risque de se passer, c'est que ce sont d'autres personnes, et on le voit aujourd'hui, qui vont essayer de parler, par exemple, à notre place. Et généralement, lorsqu'ils parlent à notre place, ils sont déconnectés de la réalité. C'est pareil sur l'aspect pouvoir d'agir. Donc, si nous-mêmes, on ne s'implique pas dans nos quartiers pour faire les choses et pour essayer, entre guillemets, d'amorcer ou bien de corriger ou bien de lutter contre les inégalités, en tout cas à notre niveau, ce ne sont pas des hommes blancs de 50 ans qui vont le faire. Excusez-moi de reprendre la formule du président, mais au final... tout simplement parce que je crois qu'en 2005, tous les clichois ont fait aussi les marches. Il y a eu cet élan de solidarité où, même si tu n'es pas politisé, même si tu ne suis pas les infos, mais il y a une marche en mémoire à Zidi Bouna.
Hélène Hatzfeld, quelle autre forme d'engagement Naoufal Mohamed, une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez du prochain quinquennat, quel que soit le président élu ou la présidente élue?
C'est compliqué de dire une seule chose, une mesure, alors qu'on sait que dans ces quartiers-là, il y a tant de difficultés, il y a tant d'inégalités. Mais ce qu'on peut attendre d'un président, ou moi en tout cas, ce que je peux attendre d'un président, c'est permettre à chacun d'avoir un boulot et un logement. Parce que moi, je pense que c'est le plus important. Et que une fois qu'on a ces deux éléments, on peut peut-être se débrouiller ou s'impliquer sur le reste.
Merci à vous.
L'année passe, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc, encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme.
C'est comme
de nous dire que la France avance alors qu'elle pend. Par la répression, stoppée net
la délinquance.
S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho. Ne régleront pas les cas d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était pas de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour se faire?
Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?
Je ne fais que vivre baïonné.
En effet,
comme le veut la société.
C'est un fait, mais
il est temps que cela cesse. Pas face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même un vengeresse
brûle l'État.
Policier en premier, et on voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu à nous de jeter les dés. Décidez donc mentalement de s'équiper.
Quoi?
Tes miroirs tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix.
Beaucoup
sont déjà dans ce cas. Voilà pourquoi cela finira dans le désarroi.
Désarroi déjà roi.
Le monde rira l'on élection.
Désarroi déjà roi.
Vous subirez la même pente. Agonie lente, c'est pourquoi j'en attends tant. Putain de politique.
Alors oui, ben, on fait un crime de la majesté. On coupe NTM. Voilà, mais bon, on avait aussi envie de garder un peu de temps pour commenter tout ça parce que ben il y a beaucoup à dire. La première chose, c'est que pour nous, on considère que ce qui s'est passé au cours du mois de octobre et de novembre 2005 est un mouvement social.
Tout à fait.
Et c'est extrêmement important de le dire. C'est pas parce que il y a pas de revendication, il y a pas d'organisation, il y a pas de leader, etc., etc., que ce n'est pas une protestation sociale, un mouvement social. Ce sont des gens qui sont unis par une identité sociale, un rapport social, et qui réagissent à partir de leur identité qui est caractérisée par leur position dans la société. Et si on prend ces éléments-là, qui sont des éléments que nous, on utilise pour mesurer notre solidarité et notre intervention à l'intérieur des luttes de classe dans la société, alors on reconnaît évidemment ce qui s'est passé au cours de ces quelques jours comme un mouvement social.
Un mouvement social, d'autant plus que les émeutiers, comme on les appelait, paraît-il qu'ils n'avaient rien à dire. Si, en fait, ils avaient des choses à dire, sauf qu'ils ils ne pouvaient pas les exprimer, parce qu'on ne leur donnait pas la parole, tout simplement. Mais que, quand ils ont pu le faire, ils ont parlé à un truc qui m'avait choqué, moi, à cette époque-là, c'est le respect. Ils demandaient le respect. Parce qu'effectivement, quand on regarde un peu l'histoire de ces trois semaines, il n'y a eu aucun respect, quoi, aussi bien de la part des politiques que de la part de tous les gens qui ont craché dessus. Mais vraiment, alors qu'il y avait deux jeunes qui étaient morts.
Tout à fait. Et puis, si on regarde la construction sociale avec des lunettes matérialistes, c'est-à-dire que on s'attache aux rapports sociaux et à ce qui détermine l'organisation de la société, la question, elle est simple et elle est claire. C'est-à-dire que est-ce que le capitalisme est capable d'intégrer dans sa dynamique, dans son histoire, dans son développement, comme producteur et comme consommateur, cette masse croissante d'individus, entre guillemets inutiles en plus, alors qu'ils continuent de détruire la base économique et sociale de leur vie. C'est-à-dire comment faire quand tu habites dans des conditions dégueulasses et que t'as ni moyen de transport, ni moyen culturel, ni moyen de développement et que t'as pas de boulot, comment tu fais pour trouver une place dans une société qui est justement régie, construite, en tous les cas organisée sur la consommation, sur la production et sur le fait d'avoir un travail et une identité sociale liée à la consommation matérielle et à la production matérielle. Et ça, le poser, c'est pas forcément ni prendre parti, ni poser les révoltes de 2005 comme quelque chose de bien ou de pas bien, ou même si, à titre personnel, je considère que c'est bien, parce que c'est une avancée dans la conscience, et le témoignage de Naofel là-dessus, il est extrêmement clair, extrêmement simple, mais ne pas voir ça, c'est vraiment se priver de partager ce que vit une énorme quantité, un énorme segment de la société en France. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours de cette période, on va avoir, une espèce de triptyque qui va malheureusement pas faire de lien, mais qui va marquer des choses pour les années qui se sont passées. Alors le premier, c'est cette émeute, hein, c'est cette série d'émeutes. La seconde qui me vient à l'esprit, c'est évidemment le rejet du traité européen, avec la prise en charge à l'intérieur de la société d'une question technique et politique, qui est le traité constitutionnel européen, qui va donner lieu à d'intenses discussions à l'intérieur de la société et arriver au rejet de ce traité par la voie des urnes. Traité qui, bien évidemment, sera après validé, ratifié par le Parlement français. Et puis ensuite, en 2006, le mouvement contre le CPE. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces trois événements, ces trois moments ont marqué le début du XXe siècle et ont marqué aussi de manière très profonde les gens qui ont pu y participer, de près ou de loin, mais que malheureusement, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de bilan de fait de ces trois moments. Et bah, les trois acteurs de ces trois moments, on va dire quelque part une certaine gauche, un certain mouvement d'opinion, hein, de l'altermondialisme, de l'autre, les gens du quartier, et enfin une jeunesse, n'ont pas été en capacité de communiquer, d'échanger, de construire ensemble. Et c'est peut-être là le principal regret qu'on peut avoir sur ce moment de novembre 2005. Même si en le constatant et en étant franc, on peut comparer ce moment de 2005 avec ce qu'on a vécu pendant les Gilets jaunes, puisque en termes de qualité, de caractéristiques plutôt, on a à peu près on a quelques similitudes, l'absence de représentants, la violence, l'affrontement avec les forces de l'ordre, le pillage, la destruction. À des charges de la comparaison, c'est que ces violences auront lieu principalement à l'intérieur des centres-villes, assez peu sur les lieux de vie et d'habitation des participants. Mais pour moi, il y a des choses qui font écho et qui résonnent.
Et puis, ce qui est le parallèle qu'il y a aussi à faire, c'est par rapport aux organisations politiques qui ont craché, bien évidemment, sur les émeutes de 2005, mais ont craché aussi sur les Gilets jaunes, hein. Y compris même les syndicats, d'ailleurs. Hein. Bon, maintenant, ils commencent à revenir en arrière, ils commencent à se dire qu'ils ont fait des erreurs. Mais il n'empêche que sur le terrain, à cette époque-là, c'était dur, hein, de faire comprendre ce que c'était qu'un mouvement social. Pour eux, le mouvement social, c'est les suites du stalinisme, en fait. Ça peut-être être organisé que par les syndicats et les partis politiques, et ça, on doit suivre la ligne directrice de leader.
Oui.
Alors là, tous ces mouvements depuis 20 ans, eh bien, effectivement, n'ont pas besoin de leader, et ils s'en passent bien, et que, bien, justement, ils vont plus loin, certainement, au niveau de la contestation de la société.
Ben, le problème, c'est que, comme tu dis, connaître, c'est aussi contrôler. Et contrôler, c'est aussi maîtriser. Or là, dans les exemples qu'on vient de citer, il y avait une incapacité de contrôle et donc de récupération. Et c'est là qu'on voit l'aspect subversif, quand on est véritablement du côté de la subversion, c'est-à-dire la transformation radicale de la société. Pour avoir quelque chose qui transforme radicalement la société, il ne faut pas que ce quelque chose soit en capacité d'être récupéré.
Bien sûr.
Et d'être contrôlé. Moins il sera contrôlable, moins il sera récupérable, et donc plus il aura de capacité de subversion et de transformation radicale de la société. C'est évident. Et normalement, les capacités et le boulot des révolutionnaires, c'est d'appuyer ces capacités d'autonomie et ces capacités de subversion, et pas d'essayer d'encadrer tout ce qui bouge, ou au contraire d'être à l'intérieur. Alors malheureusement, les réponses, elles ont eu lieu du côté des politiques et de l'État, parce que l'État et la bourgeoisie, eux, ils ont une vision claire de la conflictualité sociale, et donc ils ont une histoire extrêmement importante de la contre-insurrection. Hein, c'est quelque chose qui est très présent à l'intérieur des différents cercles du pouvoir incarné dans certains cercles de la bourgeoisie, mais pas que. Et donc, on a eu d'une part des politiques de la ville qui ont été mises en place pour pouvoir changer, une modification des périmètres urbains avec des transformations des zones urbaines pour pouvoir mieux intervenir, et une militarisation de la police d'une part, et une transformation de la justice avec toutes ces lois dites anti-bande, l'augmentation des possibilités d'incarcération et l'augmentation des procédures dites détection qui se sont bien évidemment disséminées dans la jurisprudence habituelle, à savoir d'une part les comparutions immédiates, mais aussi la contamination du droit commun par le droit de l'urgence, de l'exception, puisque je vous rappelle, aujourd'hui, on est normalement encore sous état d'urgence. En tous les cas, il reste quelques bouts, et que c'est à partir d'ici, là où il n'y avait pas de menace terroriste, mais que cette exception, donc de l'état d'urgence, est arrivée et est intervenue comme une référence, en tous les cas un outil juridique qui permet de gouverner. Et donc on gouverne aussi par l'exception. Et malheureusement, il y a un dernier point qu'on pourrait dire, c'est que depuis 2005, le nombre de décès liés à des interactions directes avec la police n'a cessé d'augmenter, puisque en 2005, 2006, 2007, on était à entre 10 et 20
douzaines,
voilà, jusqu'en 2010, et on a une augmentation de plus en plus importante, et de 2007 à 2025, on est passé à plus de 30 décès liés à des interactions avec la police. Alors quand on parle d'interactions, c'est soit des arrestations, soit des contrôles d'identité, soit des prises en charge. Et depuis 2020, on est à dire quelques chiffres quand même qui sont assez terrifiants. Pour 2021, 51, 2022, 54, 2023, 51, 2024, 65 personnes qui ont trouvé la mort, c'est-à-dire quasiment un tous les 15 jours. Et depuis donc 2025, on est déjà à 37 morts. Et quand on regarde un peu les statistiques, donc ça veut dire qu'entre 2005 et 2025, au moins, pour ceux qu'on connaît, hein, parce qu'il y a ceux qu'on ne connaît pas, 560 personnes sont décédées au cours d'une mission des forces de l'ordre, quelle que soit sa légitimité, son intentionnalité ou sa légalité, hein, hors opération antiterroriste. Et au-delà du nombre, c'est la récurrence et la répétition des situations qui interrogent. Même conditions, même population. Le profil type, c'est en général celui d'un jeune homme non blanc de classe populaire qui habite un quartier d'une agglomération, souvent la Seine-Saint-Denis ou des Bouches-du-Rhône, même pas toujours, quoi. Et en général, le décès est lié à la nature de l'intervention, mais dans près d'un cas sur trois, c'est à la suite d'un contrôle de police ou d'une tentative de contrôle.
Refus de tempérer.
Ouais, ou que le contrôle survient, quoi. Plus de 160 décès, quoi. On est en 2021, la Cour des comptes dénombrait 47 millions de contrôles d'identité. Ça vous donne quand même le niveau du régime d'État policier dans lequel on est. Donc les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. La mort de Naël, il y a deux ans maintenant, a provoqué une sorte de mini-réplique, de mini secousse. Il n'y a pas eu de choses qui ont débouché. Mais pour conclure notre propos, on va répéter ce qu'on a dit au début, parce que je trouve que cette phrase, elle est véritablement limpide et claire. La France a connu comme une forme d'insurrection non organisée, avec l'émergence dans le temps et l'espace d'une révolte populaire des cités sans leader, ni caïd, ni intégriste, et sans proposition de programme. Le ressort principal des émeutes serait la condition sociale des exclus de la société française. Eh bien, nous, on attend avec impatience la prochaine révolte des exclus de la société française pour y jouer pleinement notre rôle, et on espère que cette fois-ci, on sera largement plus nombreux.
Très bien. C'est des flics qui ont écrit ça.
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Colis Garrigues, Montpellier, Canassu à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le monde, je répondrai à mes questions avec de multiples réponses. Devenir celui que je dois.
Au début, il n'y avait rien, quand soudain...
Radio Primitive.